CNU, vivre ensemble.
Bonjour à toutes et bonjour à tous. Me and You, c'est le podcast du vivre ensemble. On y parle des liens que tissent les enfants avec leurs parents, leurs grands-parents, les professionnels de l'enfance et bien plus encore. Comment accompagner les enfants de manière respectueuse et joyeuse? Comment mieux comprendre leur développement et transformer les difficultés qu'on peut rencontrer en opportunités d'apprentissage? Ce podcast a été conçu à deux. Je suis Mélodie Lopez, je suis professeure des écoles, je suis la créatrice de Happy Kids et je suis maman de 5 enfants.
Et moi, je suis Nadège Petrel. Je suis infirmière puéricultrice, professeure de yoga pour enfants et maman de 2 filles. Avec ce podcast, nous avons envie d'éveiller votre curiosité, de vous faire découvrir de nouvelles approches pour vivre avec vos enfants et de vous apporter des informations qui vous seront utiles pour avancer dans votre quotidien. Parce qu'une personne informée est une personne qui a le choix. Alors, si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à vous abonner et à nous donner un coup de pouce en mettant 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute et en partageant sur les réseaux sociaux.
Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de la 3e saison du podcast Me and You. Aujourd'hui, nous allons parler de la peur du noir, la peur de la nouveauté, la peur des chiens, la peur de réciter sa poésie devant toute la classe. La peur est une émotion qui peut devenir pesante et empêcher les enfants d'avancer. Comment les accompagner pour leur permettre de dompter celle-ci? Quels outils peut-on leur proposer? Comment accueillir cette émotion sans pour autant la faire grandir? Autant de questions que nous allons poser à Stéphanie Couturier, qui est autrice, entre autres, de « Aider son enfant à dompter ses peurs », conseils et exercices pour apprivoiser ses craintes et booster sa confiance en lui. Stéphanie Couturier est psychomotricienne et sophrologue. Elle s'est spécialisée dans l'accompagnement de la sphère émotionnelle de ses patients et elle a écrit de nombreux ouvrages à destination des enfants, des parents et des professionnels de l'enfance. Bonjour Stéphanie.
Bonjour.
Alors pour commencer, est-ce que tu veux bien te présenter en nous expliquant un peu ton parcours et puis comment tu en es venue à publier autant de ressources sur la thématique des émotions ?
Oui, alors je m'appelle Stéphanie Couturier, je suis psychomotricienne de formation et sophrologue. Et je me suis vraiment spécialisée en fait dans l'accompagnement de la gestion des émotions de mes patients. Principalement parce que je suis hypersensible, que c'est un sujet que je traîne, la gestion des émotions que je traîne depuis mon enfance. Et ça a toujours été quelque chose d'important et d'un peu lourd, d'ailleurs, il y a longtemps pour moi. Ce qui n'est pas toujours d'ailleurs beaucoup plus léger aujourd'hui, c'est juste qu'aujourd'hui j'ai plus d'armes, on va dire que j'ai plus d'outils pour pouvoir canaliser et m'accompagner. Et j'ai eu envie au fur et à mesure en fait de ma formation, de pouvoir utiliser ce que je ressentais et aussi de twister un petit peu ce que j'avais appris, c'est-à-dire que tout ce que j'avais appris en psychomotricité, parce que la sophrologie est venue après, j'avais envie vraiment de le mettre toujours à la sauce émotionnelle. J'avais envie d'apporter ma petite touche, en fait, sur tout, ne serait-ce que dans la rééducation de l'écriture. Pour moi, c'était important que systématiquement, le vécu de l'enfant soit mis en avant. Donc, avec tout ça, progressivement, j'ai commencé à me spécialiser, on va dire, dès mes études, parce que j'avais vraiment très envie d'avoir cette lecture particulière. C'était surtout un besoin au-delà d'un envie, enfin d'une envie au début. J'avais vraiment besoin de comprendre les choses avec ce prisme et puis de l'aborder de cette façon-là. Et puis, au fur et à mesure, c'est vraiment devenu une envie. Et donc, c'est ce que j'ai proposé au cabinet. J'ai même inventé une méthode de relaxation autour de l'enveloppement et puis de l'imaginaire. Et tout ça m'a donné envie. En fait, j'ai aussi beaucoup écrit de contes, en fait, d'histoires qui sublimaient des émotions. Et je les ai écrites, je les ai inventées avec des patients. Tout ce que j'ai écrit a été inventé pour un patient lors d'une séance. Et j'avais la bonne idée à l'époque de m'enregistrer. Et tous ces enregistrements, ben, je les ai réécrits derrière. Ça a commencé à me faire un recueil d'histoires sophroniques, on va dire ça comme ça. Et puis, l'histoire a commencé aussi sur le plan un peu plus éditorial avec Marabout qui a eu envie de me publier. Et puis après, c'était le début d'une longue et grande histoire.
Et oui, effectivement, moi j'ai beaucoup utilisé ton premier ouvrage, donc avec ces petites histoires de méditation pour les enfants. Je pense notamment à l'histoire Les baskets arc-en-ciel. En fait, ce que j'aimais bien, c'est qu'il y avait des thèmes. Donc tu parlais par exemple de la confiance, et donc on avait une petite histoire à raconter aux enfants, et où l'enfant peut se plonger vraiment dans son imaginaire, incarner le personnage peut-être principal de l'histoire, et au fur et à mesure, du coup, ben, booster soit sa confiance, soit apprivoiser ses émotions. Donc vraiment, je recommande cet ouvrage, il est vraiment très très chouette pour l'avoir utilisé avec des enfants assez petits, donc de 3 ans même jusqu'à 10 ans, jusqu'à mes élèves de CM2. À chaque fois c'était un petit temps que les enfants ils aiment énormément, donc merci de nous partager tout ça. Et puis on voit que c'est intéressant parce que c'est au travers de ton vécu en fait, finalement des choses qui pouvaient être difficiles, t'en as fait une force et aujourd'hui tu partages tous ces outils autour de toi, donc merci pour ça.
Ah bah, de rien, merci de me le dire, ça fait toujours vraiment plaisir. Et c'est vrai que moi, ça a été une découverte, et puis surtout, enfin une découverte de pouvoir surtout sublimer ses émotions avec mes patients, et de me rendre compte que ce qui concernait un patient, bah, je pouvais l'utiliser aussi pour le plus grand nombre derrière. Et ça, c'était vraiment extra. Et pour la petite anecdote, moi, ma préférée, c'est le dîner magique. J'adore cette histoire. Et ça concerne justement les peurs, et je l'utilise, mais je crois que je l'utilise quasiment tous les jours depuis que j'ai écrit mon premier livre. Je l'adore, les enfants l'adorent généralement, et voilà. Ça, c'est vraiment de belles histoires qui se poursuivent et qui viennent justement apporter un petit plus dans le vécu émotionnel pour l'enfant. C'est vraiment un outil pour mieux gérer ses émotions. Chaque histoire est un outil pour mieux gérer son émotion ou ses émotions.
Et donc toi, tu travailles beaucoup autour des émotions. Aujourd'hui, on a décidé de se centrer peut-être plus particulièrement sur une en particulier, donc la peur. Est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu quelles sont les peurs les plus fréquentes auxquelles sont confrontés les enfants ?
Alors, tout va dépendre un petit peu de l'âge. C'est vrai que les peurs les plus fréquentes, on va dire jusqu'à à peu près 5-6 ans, sont les peurs liées au monde de la nuit. Donc, le noir, les monstres, Après, ça, c'est très lié aussi à l'imaginaire des enfants, de ce qu'ils ont vu ou de ce qu'ils ont lu. Ça peut être le loup, ça peut être... Parfois, j'ai des noms de sorcières ou autres, enfin, qui apparaissent, et les enfants s'accrochent à ça, et l'imaginaire va venir se teinter, en fait, de ces images et puis des émotions qui sont liées. Et bah, souvent avec la nuit qui arrive, on n'a plus ces barrières visuelles qui nous permettent en fait de poser les choses, et c'est les portes ouvertes à l'imaginaire et donc aux émotions parfois un peu difficiles comme la peur. Donc ça, ce sont vraiment les peurs classiques, on va dire, et après jusqu'à à peu près cet âge-là. Et après, on a toutes ces peurs aussi plus ciblées, comme la peur des chiens, la peur des araignées, la peur de certains insectes, voilà, qui va être plus avec l'enfant et son environnement. Donc, finalement, quand il va à l'extérieur, quand il est en lien. Et donc, ça peut être assez fort. Et puis, en grandissant un tout petit peu plus, ce sont les peurs qui sont plus sociales. Donc, la timidité qui va arriver, la peur de parler en public, la peur de ne pas réussir. Voilà.
Et du coup, parce que là, donc, on parle effectivement de plein de peurs qui sont différentes. Et comme tu l'évoques, au final, on voit aussi qu'au fur et à mesure que l'enfant grandit, les peurs, elles sont différentes. En général, on dit qu'une émotion, ça dure 90 secondes. Pourtant, parfois, quand je repense à certaines peurs, notamment qui peuvent survenir le soir, on a l'impression que ça dure plus longtemps. Est-ce que du coup, ça veut dire que c'est pas une émotion ? Enfin, qu'est-ce qui se passe et pourquoi est-ce que ça dure plus longtemps du coup ?
Parce que C'est vrai qu'une émotion, c'est une réaction. C'est une réaction, c'est une réaction même de protection. Normalement, on a une émotion pour se protéger. Ça peut être de la joie et c'est pas une protection. Mais typiquement, la peur, c'est vraiment, si on a peur, c'est juste parce qu'on est censé être en danger, on est là pour se protéger. Donc, c'est vrai que c'est plus, on va dire, instantané que le sentiment. Qui va être plus posé, plus long et qui va être plus lié à la personnalité aussi et au vécu de l'enfant. Mais très souvent, ça part d'une émotion et le sentiment prend le relais et s'installe. Donc, ce qui se passe, par exemple, pour le soir, c'est qu'il fait noir. Ça crée, la plupart du temps, des enfants un peu anxieux. Donc, l'anxiété monte. Et puis, s'il y a une ombre ou si l'enfant va penser à « mais il peut y avoir le monstre dans le placard ou la sorcière qui va passer sa tête derrière la fenêtre, par la fenêtre », c'est insupportable. Moi, j'ai le souvenir de… J'avais vu « Les 101 Dalmatiens ». J'étais horrifiée par Cruella avec sa tête à moitié… ses cheveux à moitié blancs, à moitié noirs, tous les soirs. J'avais une peur panique, j'ai l'impression que j'allais voir la tête de Cruella à la fenêtre et donc je ne pouvais plus regarder les fenêtres. Il y avait plein de fenêtres dans ma chambre et dans la chambre de ma sœur, donc même si j'allais me planquer dans la chambre de ma sœur, et donc il fallait que j'avais des stratégies d'évitement pour ne pas regarder, et évidemment ça attire aussi, c'est-à-dire que je voulais pas regarder, en même temps il fallait que je vérifie qu'il n'y avait pas Cruella derrière la fenêtre, donc c'était une peur mais qui s'était transformée en sentiment d'anxiété, de danger, et ça se posait. Donc, c'est ce qui se passe pour les enfants la plupart du temps le soir.
Oui, ça, c'est intéressant. Le sentiment d'insécurité, après, prend le dessus suite à l'émotion qui est arrivée.
Et l'imaginaire s'emballe.
Oui. Oui, on et les enfants l'ont beaucoup. Oui.
C'est ça, le rôle du mental, quoi, pour continuer à s'inventer des histoires ou des scénarios. Et hop, là, du coup, c'est...
Exactement, c'est comme ça qu'on peut sublimer les choses. C'est-à-dire que c'est un scénario qui arrive et qui fait peur. Bon, mais il faut apprendre à nos enfants que nous sommes maîtres, en fait, de ce scénario qui est là, en train de se dérouler. Donc, pour l'instant, on a l'impression qu'on subit ce scénario, mais on va lui donner un autre destin. On va changer un peu la donne. Et puis, on va se dire que on invite Cruella à sortir, ou on lui dit aujourd'hui, je dirais la petite Stéphanie, on va mettre un petit panneau sur la fenêtre en disant il n'y a pas de chien dans cette maison. Donc, ça aurait répondu à ma peur de Cruella. Finalement, qu'est-ce qu'elle fait, Cruella? Elle cherche des chiens. Voilà. Parce que j'ai eu quand même des chiens, j'aurais pu faire croire que voilà, il n'y avait pas de chien ici, ou alors chien méchant, ne pas approcher. J'aurais trouvé une parade pour répondre à la peur et ne pas l'ignorer. Prendre en considération la peur et trouver une solution aussi fantasmatique pour la faire partir. Puisqu'on est dans l'ordre du fantasme, on est vraiment dans l'imaginaire, dans la créativité, et bien on va servir de cette créativité pour pouvoir justement dépasser cette peur.
Oui, là on voit que tu écoutes l'émotion et que tu redonnes du pouvoir à l'enfant en lui donnant justement ce pouvoir-là d'agir et de contrer justement ce qui lui fait peur. Et tu apprends aussi à manier ses images mentales et donc à transformer ces scénarios qui font peur en un scénario du coup plus agréable et moins anxiogène pour l'enfant. Oui. Et au travers de la stratégie que tu proposes, on voit que c'est quand même assez différent de ce qu'on a l'habitude d'entendre, où souvent, quand un enfant exprime une peur, les adultes ils vont avoir tendance à dire « c'est rien, c'est pas grave, n'aie pas peur pour peut-être contenir un peu ce qui se passe pour l'enfant et lui permettre de passer à autre chose. Est-ce que c'est efficace de dire ça à nos enfants, de leur dire qu'ils n'ont pas peur ?
Pas du tout. Alors, évidemment, il faut rassurer son enfant et puis ne pas rentrer dedans en se disant « mon Dieu, mais oui, cette sorcière, qu'est-ce qu'elle fait peur ?» Ou alors « Cruella, mais elle est horrible, elle a fait tellement de mal à tous ses chiens, je te comprends. » On ne va pas rentrer là-dedans. Mais par contre, on va... dire qu'on va rassurer son enfant en disant qu'on est là pour l'aider, en effet qu'il ne va rien lui arriver, mais qu'on va trouver des solutions ensemble pour dépasser ses peurs. Et donc, surtout, on prend en considération la peur de l'enfant. Mon mari, pour ça, il a une très belle expérience. Quand il était petit, il voyait des chiens méchants qui liaient à des loups dans sa chambre. Et donc, et il avait très peur de ces loups. Et sa maman, un soir, est arrivée et lui a dit « Ok, maintenant, ça suffit, ces loups. Moi, je ne les vois pas, mais dis-moi où ils sont. On les met dehors. On n'en peut plus de ces loups. » Donc, elle a ouvert la fenêtre. Et donc, Julien lui montrait où étaient des loups, et elle les attrapait par la peau du dos, et un par un, elle les a jetés par la fenêtre en disant « Allez, oust, dehors, allez faire peur à d'autres enfants, ici, on ne veut pas de loups, ça suffit. » Et elle a, une fois, elle lui a dit « C'est bon, ils sont, il n'y en a plus ?» Non, il n'y en a plus. Elle a refermé la fenêtre, et elle a dit « Maintenant, c'est fini. Ils sont dehors, donc tout va bien, ne t'inquiète pas. » Ça a été fini. Alors là, c'était un peu magique. Je pense que ça ne serait pas aussi rapide et parfait pour tous les enfants. Néanmoins, ça peut le faire. Là, ça a été le cas pour Julien. Il n'a plus eu peur des loups. Il n'a plus vu ses loups le soir. Et c'est ça qu'il faut faire. C'est rassurer son enfant, prendre en considération sa peur et essayer de trouver une solution, ensemble ou pas, là, elle est trouvée toute seule, mais pour justement rentrer dans l'imaginaire et s'en débarrasser. Moi, il y a une des techniques que j'adore, que je propose justement dans le livre, il y en a vraiment une que j'aime beaucoup et que j'ai utilisée au cabinet à fond. D'ailleurs, la poste du 11e arrondissement de Paris, pendant une période, devait me connaître sans me connaître, parce que je faisais systématiquement dessiner les peurs. Et on inventait quelque chose autour de cette peur. Donc, soit si c'était un loup, on ridiculisait un petit peu le loup, et systématiquement, ou alors c'était un monstre, on dessinait le monstre, etc. Mais ce monstre, ce loup, cette peur, on la matérialisait sur une feuille, par un dessin. Parfois, j'aidais un petit peu. Après, on le mettait dans une enveloppe, je mettais un timbre, et on écrivait, et on envoyait cette peur ailleurs. Donc, on envoyait cette peur je l'ai déjà envoyée. Je voyais en fonction de l'univers de l'enfant. Si l'enfant me disait, je voudrais qu'il aille à tel endroit, etc., ça pouvait être, je ne sais plus, au pays des rêves, pour qu'il me laisse tranquille. On écrivait au pays des rêves, avec ses amis, et qu'il y reste pour toujours. Et donc, je sortais, donc les parents qui étaient en salle d'attente me voyaient mettre mon manteau, le manteau à l'enfant, remettre les chaussures, parce qu'on enlève les chaussures au cabinet. Et puis, on partait dans la rue et on allait jusqu'au bout de la rue, au coin, pour poster ensemble cette lettre. Et on la postait et on revenait victorieux de cette petite balade parce qu'on s'était débarrassé de cette peur. Et ça... Voilà, c'est pas juste le dessiner, se dire « bon, j'irai le mettre à la poste ». Non, 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 il faut que l'enfant soit vraiment acteur de ce qui se passe. Donc, il faut vraiment mettre un timbre, parce que les enfants ont en tête que sans timbre, ça ne peut pas arriver quelque part. Donc, il faut mettre un timbre. Et puis, il faut aller dans une boîte aux lettres. Et on adresse là où on veut adresser en fonction de l'enfant, de l'univers qu'on choisit, et on l'envoie.
C'est hyper intéressant ce que tu dis, parce qu'au final... comme tu viens de le décrire, l'enfant, il devient acteur. On trouve le juste milieu et l'équilibre entre écouter la peur de l'enfant et en même temps ne pas l'entretenir, ne pas déclencher d'autres peurs par-dessus. Comme tout à l'heure quand tu disais, on ne dit pas, c'est sûr que Cruella, elle est vraiment horrible, elle est vraiment... Voilà, on stoppe tout ça. Et en même temps, on l'entend, on part de sa peur et qu'est-ce qu'on en fait de façon à ce que toi, tu sois acteur aussi pour que vraiment, elle parte et que tu puisses t'en débarrasser et qu'elle ne revienne plus. Et je trouve ça vraiment beau. Et ça me rappelle, moi, une histoire avec un petit garçon que j'avais vu en consultation sommeil. Et lui, il voyait un crocodile. Il avait peur du crocodile qui venait sous son lit. Et c'est pareil, c'était trop chouette parce qu'on était partis... au final du crocodile et on lui avait demandé d'aller manger, je crois qu'il lui avait dit d'aller manger des haricots verts dehors, mais qu'en gros il n'y avait rien à manger dans sa chambre. Mais c'est vrai que c'est le fait d'arriver à écouter sans en rajouter et permettre à l'enfant de choisir comment est-ce qu'on s'en débarrasse aussi de cette peur. Et là tu nous parlais effectivement du fait de pouvoir la matérialiser, d'imaginer une autre suite, une autre continuité. Est-ce que toi, tu as d'autres astuces comme ça que tu pourrais nous partager pour accompagner d'autres peurs? Puisqu'en plus, tout à l'heure, tu nous évoquais plein de peurs différentes, pas forcément toujours autour du coucher, ou tu nous parlais aussi par rapport aux insectes, etc. Est-ce que tu aurais d'autres petits tips comme ça à nous partager?
Alors, si c'est des peurs plus, qui ne sont pas forcément liées au monde de la nuit et donc de l'imaginaire, mais typiquement les chiens, ça arrive très souvent chez des enfants qui viennent parce qu'ils ont peur des chiens, ou des araignées. Mais les araignées, c'est quelque part, finalement, c'est plus facilement gérable, surtout à Paris, par rapport aux chiens qui, on les croise dans la rue et c'est comme ça, en fait. Quand on a peur des chiens, c'est comme ça. C'est d'essayer de se renseigner un maximum. C'est-à-dire que quand on est parent, c'est de montrer d'aller trouver, comment dire, des petits documentaires sur les animaux en question, d'aller faire des petites expositions, de lire des livres sur le sujet. Bon, le chien, il y a le loup, il y a toute une thématique autour du loup aujourd'hui en librairie jeunesse. Et donc ça, c'est assez sympa parce qu'on se rend compte que le loup est un enfant comme un autre, on va dire ça comme ça, et ressent aussi des émotions. Donc si c'est le loup, bon, c'est un peu lié au monde de la nuit, mais quand même, le chien, on peut tourner un petit peu comme ça. Donc en librairie jeunesse, souvent, il y a pas mal de livres qui vont aider, qui sont des supports, mais vraiment, voilà, tout ce qui est documentaire, tout ce qui va permettre à l'enfant d'apprendre davantage sur le loup, l'araignée ou autre chose, hein, ça peut être toute autre chose, sur un insecte en particulier, ça permet de en savoir plus, ça permet de calmer le fantasme. Et ça permet de se dire aussi, de trouver des parades. Le chien va savoir qu'il aime ça, il aime pas ça. Bon, ben voilà, on fait pas ce qu'il aime pas. Et puis, on sait que si on fait ce qu'il aime, on est en sécurité, en tout cas on est plus en sécurité. La même chose pour les araignées. Enfin, il y a plein de petites choses à mettre en place en fonction du type de peur de l'enfant pour qu'il en apprenne davantage et qu'il ait ses armes, en fait, pour contrer son émotion.
Oui, on voit encore là de reprendre le pouvoir sur la situation. Ça a l'air d'être vraiment la clé pour arriver à dompter cette émotion, quoi. Ok, super. Et là, on parle des émotions des enfants, mais en fait, les émotions, tout le monde en a, les adultes aussi. Et il y a des peurs qu'on peut avoir nous-mêmes adultes. Et on peut avoir peur, justement, de transmettre celles-ci à nos enfants. Tu parlais de la peur des araignées. Voilà, c'est quelque chose qui est assez courant.
Toutes les peurs se transmettent. Alors ça, il faut vraiment que les parents l'aient en tête. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est quand même un petit peu plus, prise en compte, parce que c'est un vrai sujet, et j'en parle dans mon livre, parce que moi j'ai grandi avec des parents, mais c'était un sketch, hein, avec des parents qui avaient peur des araignées, mais c'était un sketch. Si on avait eu un appareil, enfin si j'avais pu les filmer aujourd'hui, mais j'aurais des vues comme jamais sur internet. C'était chacun avec une chaussure à la main en disant, ils se renvoyaient la balle, Jacqueline, vas-y, regarde, elle est là, mais non, mais voyons, et en s'engueulant comme pas possible, ma mère qui hurlait sur mon père, mais vas-y, t'es plus grand, enfin c'était un sketch, et nous, on assistait à cette araignée qui faisait tellement peur, et il fallait donc plus ou moins grande, hein. Parfois c'était pas du tout un monstre, et évidemment, on est trois filles, on a toutes les trois peur des araignées. Ça, c'est très clair. Alors, moi, ça va mieux parce que j'ai beaucoup travaillé le sujet, mais ça reste une peur. C'est ancré en moi. Une araignée égale danger. Je grandis avec ça, c'est instinctif. Alors, peut-être que sans ça, j'aurais aussi cette peur. Hein. C'est possible. Mais ce qui est sûr, c'est que si on montre ça à son enfant, on lui transmet.
Ok, bon. On note alors, et donc ça veut dire que peut-être qu'il faut qu'on travaille sur nos propres peurs. Alors justement, est-ce qu'en famille, on peut partager des activités ou des petites astuces pour apprendre à dompter nos peurs tous ensemble? Est-ce que tu aurais des...
Oui, alors on revient un petit peu aux astuces de tout à l'heure. C'est tout ce qui va nous permettre déjà d'apprendre davantage sur les sujets de la peur, entre guillemets. Donc ça, ça se fait en famille, c'est chouette. Plus on apprend ensemble, plus on avance. Ça permet vraiment de... Et puis on peut justement rire un peu de « Oh là là, la dernière fois, tu te souviens Et puis le fait de revenir sur les situations, ça permet de prendre du recul sur ses émotions, du moins sur ses réactions émotionnelles. Et ça permet d'avancer. Donc, il y a un peu tout ça, sous cet aspect, on va dire, d'apprentissage. Et puis après, il y a aussi les aspects plus ritualisés qu'on peut partager, qui sont beaucoup plus fun et hyper sympas. Et ça, c'est... Mais ça, vraiment, je vous le conseille, dès que vous êtes en vacances, en famille, c'est d'essayer d'avoir des petits rituels rigolos. Donc, ça peut être autour des peurs, ça peut être autour d'autres choses. Mais là, on parle des peurs, donc on va le faire ensemble. Ça peut être... Tiens, ben, cette semaine ou aujourd'hui, on fait une balade en forêt ou on fait, on est sur la plage, on va faire quelque chose pour se débarrasser de ses peurs. Et donc, soit par exemple, on est en forêt, aujourd'hui, on va ramasser notre petit talisman qui va être un anti-peur, qui va nous donner du courage. Et donc, on cherche ensemble et ça ne dure pas 2 minutes. C'est-à-dire qu'on se balade en forêt, on choisit, on peut en prendre plusieurs et puis sélectionner celui qu'on va garder à la fin et se dire qu'en rentrant, ben cet objet, soit on va le mettre en peinture, soit on va le dessiner, soit on va en faire un petit hôtel là où on est en vacances ou à la maison et avec une petite bougie et se dire parce qu'on va, la bougie va donner de la force à notre petit talisman et une fois qu'il aura passé, par exemple, un rituel de toute une nuit devant la lune avec une petite bougie à côté qu'on aura fait brûler juste un quart d'heure histoire de lui donner de la force, etc. Le lendemain, notre talisman est chargé et on peut l'avoir dans sa poche et on a du courage et on est plus fort que voilà, c'est les peurs qui vont venir nous embêter. Ça peut être, donc ça c'est pour le talisman, mais ça peut être on est sur la plage et on se dit qu'on va se libérer de toutes ces peurs et donc on se donne la main tous et on court tous ensemble face à l'océan ou face à la mer et on hurle pour crier, pour sortir toutes les peurs de soi. Mais ça, c'est génial. Faire ça, ça fait un bien fou à tout le monde. Ça détend vraiment, ça crée, ça apporte de la joie. Et puis surtout, faire ce genre de rituel en famille, ça crée des souvenirs. Tout le monde s'en souvient. Je veux dire, tout le monde s'en souvient. Moi, ce que j'ai fait avec, ce qu'on a fait avec nos enfants, nous, on faisait des sketchs pour sublimer un peu les émotions. Alors, on se moquait d'eux, mais on se moquait gentiment d'eux et tout le monde y passait. Et on en rajoutait complètement. On faisait des trucs un peu vraiment rigolos, mais ils nous en parlent toujours 10 ans après. Ils se souviennent, ah là là, mais vous aviez fait ça, mais c'était tellement drôle. Enfin, et c'était surtout, pareil, une fois, on avait fait un clip vidéo. Alors, on n'a pas fait le montage, malheureusement, mais on s'est filmé sur une chanson, parce qu'on chantait, enfin, il y avait cette fameuse chanson de Philippe Catherine avec la banane, je sais pas quoi. Et ben on s'est fait un truc familial comme ça, où on s'est déguisé, on était en vacances, on s'est déguisé, on s'est filmé des bouts sur cette musique. Et c'était génial, c'était vraiment, ça crée une cohésion familiale. On est une famille recomposée et évidemment, comme toute famille tout court et encore plus les familles recomposées, il y a eu vraiment des moments difficiles. Ces moments de cohésion, que ce soit de crier sur la plage, que ce soit ces clips, que ce soit ces sketchs, ça a été des moments très fédérateurs et surtout d'entraide, enfin de moments où on se retrouvait. Et ça aurait pu être sur un sujet, par exemple, des peurs, d'une émotion en particulier. Nous, c'était vraiment, on prenait la cohésion et finalement l'apaisement des émotions hein, pour chacun. Et je trouve qu'on s'en est vraiment super bien sortis, mais parce qu'on s'est mouillé, quoi. On y est allé, on a fait tout ça, on a fait ces rituels. Et je trouve que c'est génial à mettre en place. Et j'encourage vraiment tout le monde à le faire parce que les enfants s'en souviennent. Et grandissent avec ces souvenirs et c'est génial. Autant ils peuvent oublier des disputes, ils peuvent oublier plein de choses, mais ces rituels, ça va tellement être particulier et les marquer qu'ils vont grandir avec. Et ça, ça crée des forces intérieures.
Ouais, c'est ça, c'est qu'en fait, ça vient casser aussi la routine. Et comme tu dis, le fait de faire avec les enfants, il y a quelque chose d'autre qui se passe. C'est pas juste de dire aux enfants, bah tiens, va crier en courant vers l'océan, tu vas voir, ça va te faire du bien. Non. là, viens, vas-y, on le fait tous ensemble. Et du coup, on va aussi aller chercher à l'intérieur de nous notre propre enfant intérieur. Et on va y aller, et on va courir, et on va s'amuser, et on va s'éclater autant qu'eux, alors que peut-être au départ, bah, le fait de faire le premier pas et d'y aller, on va se faire un petit peu violence et se dire « Oh non, mais j'avais pas trop envie. » J'aurais pu dire juste aux enfants d'y aller tout seul et de se dire « Non, allez, je me fais un tout petit peu violence et on y va tous ensemble. » Et au final, c'est le genre de, je trouve, d'action, d'activité qui fait du bien à tout le monde. C'est-à-dire qu'à la base, peut-être que des fois, on les pense un peu pour les enfants, surtout quand bah, c'est en lien avec une émotion, comme tout à l'heure, quand tu parlais du talisman, aller chercher dans la forêt pour essayer d'éloigner des peurs des enfants. Mais je me dis, ça, c'est le genre de rituel que même un adulte peut faire et à qui ça fera du bien aussi. Et c'est ça qui est beau avec, je trouve, avec toutes ces activités-là, c'est qu'en fait, des fois, on se dit, bon, je vais le faire pour mon enfant et on le fait avec. Et au final, on se dit, ah oui, mais à moi aussi, ça m'a fait du bien. Et souvent, je trouve que les parents arrivent à prendre au final aussi soin d'eux à travers ce qu'ils vont proposer pour les enfants. Ou tout à l'heure, au tout début, tu parlais de l'hypersensibilité et comme quoi toi, tu étais hypersensible. Et je sais que je le suis aussi, mais à la base, je l'ai découvert parce que j'ai fait les recherches pour mes filles et parce que j'ai cherché des outils pour mes filles. Et puis au final, on se rend compte que ben, les outils qu'on utilise, enfin, en tout cas que moi, je mets en place à la maison avec elles, ben, c'est des choses qui me font aussi beaucoup de bien. Donc c'est vrai que de pouvoir en plus mettre tout ça en place tous ensemble, où il y a vraiment tous les membres de la famille, comme tu dis, ça crée une vraie dynamique, une vraie cohésion, ça renforce les liens, ça crée des souvenirs, ça reste, ça marque. Et puis ça casse un peu cette routine, ce quotidien. Et je pense que c'est ce qui fait aussi qu'effectivement ça reste ancré dans la mémoire.
Oui, oui, bien sûr. Mmh. Et c'est créer un moment ensemble. Et c'est comme, par exemple, tout à l'heure, ce que je disais, de venir dessiner le monstre ou le loup et de lui proposer un autre destin. Si on dit juste à l'enfant, bah, dessine le monstre dont tu as peur, tiens, voilà des feux, des crayons, vas-y, je pique, on part faire une lessive, on va mettre un truc sur le feu, on vient entre deux pour voir t'en es où, etc. Ça ne marchera pas en fait, ou très peu, enfin, je n'y crois pas à ça. Ce qui va marcher, c'est de s'installer avec son enfant, de créer cette bulle et ce moment pour lui, de prendre en considération en fait, ce qu'il traverse, et de lui proposer, ok, on va faire ça, vas-y, et vous le regardez dessiner. Il faut être en face, on peut mettre de la musique, moi je mets toujours de la musique au cabinet, souvent je demande à l'enfant ce qu'il aime, je mets libérer, délivrer s'il le faut, même si je peux le chanter par cœur, même si je n'ai jamais vu le dessin animé, mais j'ai des enfants qui m'ont demandé, enfin j'ai une playlist... Spotify est assez incroyable parfois du fait des désirs des enfants, mais c'est ça qui est chouette en fait, c'est vraiment d'essayer de partir sur ce que l'enfant aime et a besoin. Donc moi je vais le créer comme ça au cabinet, mais il ne faut pas hésiter à le faire aussi à la maison, c'est de mettre une musique qu'il va aimer, de créer un petit moment, on peut aussi mettre une petite bougie, il faut que l'enfant ressente que c'est son moment et que c'est un moment particulier, un moment un peu solennel où on fait quelque chose pour se débarrasser, par exemple, de ses peurs. Et donc, bah, oui, vous allez le regarder. Peut-être que si vous vous levez, bah, c'est pour aller chercher des paillettes ou d'autres feutres. Et vous pouvez proposer votre aide pour dessiner quelque chose ou écrire des petits mots ou juste lui parler pendant ce temps-là, lui parler de vos peurs aussi quand vous étiez petite ou petit, enfin, etc. Mais c'est vraiment créer cette bulle et ce moment pour que ce moment devienne... productif en fait et transformateur de l'émotion qui est proposée.
Eh ben, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on n'a peut-être pas évoqué encore aujourd'hui, mais que toi tu aimerais partager pour les personnes qui nous écoutent ?
Alors sur le sujet des peurs, alors pour toutes les émotions, moi je suis conseillère agréée en fleurs de Bac. Les fleurs de Bac sont des élixirs de fleurs et d'arbres, c'est complètement naturel. Et Petite parenthèse, il n'y a pas besoin d'y croire pour que ça fonctionne, il faut juste les prendre, ça fonctionne super bien. Donc j'encourage les parents dont les enfants ont des peurs à utiliser les fleurs de Bac parce que c'est magique, c'est vraiment magique. D'ailleurs, très souvent au cabinet, il y a des parents qui disent en rigolant « Ah Stéphanie, on vous appelle la magicienne à la maison, etc. » Bon, bah, c'est les fleurs de Bac. Il y a ce que je propose aussi au cabinet, mais les fleurs de Bac, c'est vraiment super. Et pour les peurs, il y a vraiment trois fleurs qui sont très ciblées. Il y a Aspen, le peuplier, qui est par rapport à l'anxiété, la peur du noir et l'anxiété de fond. Mimulus, la mimule, qui est pour les peurs très ciblées que l'on peut nommer. Bah, typiquement, la peur des chiens, la peur des araignées, la peur de la maîtresse, si elle crie et qu'on est très sensible et qu'on a peur des cris. Voilà. Et ensuite, il y a Rock Rose, l'hélianthème. Rock Rose, c'est quand on a des peurs paniques, en fait, des peurs qui vous prennent un peu plus aux tripes, j'ai envie de dire, ou aussi les cauchemars. Ça apaise vraiment, vraiment les cauchemars. Et en plus de ça, très souvent, moi, je mets Walnut, le noyer, qui permet à l'enfant, parce que quand on a ses peurs, on est très sensible en fait à l'environnement généralement, on est sur le qui-vive. Donc Walnut permet de créer comme une enveloppe de protection autour de soi et donc de filtrer davantage ce que l'on perçoit de l'environnement. Et le marronnier blanc qui permet de ne pas être en boucle en fait dans sa tête sur les sujets, d'avoir son petit, voilà, les pensées qui commencent à s'enclencher et qui restent un petit peu fixées dessus. Ça permet de passer plus facilement à autre chose et justement de switcher un peu plus facilement l'émotion. Donc, par exemple, un petit mélange de ces cinq fleurs. Les fleurs de Bac, généralement, ça agit évidemment beaucoup mieux quand c'est un flacon qui est personnalisé, quand on parle de son enfant et que la personne vraiment choisit en fonction du tempérament de l'enfant, de ce qu'il traverse, etc. Mais typiquement, sans passer par exemple, un conseil personnalisé, un petit cocktail avec ces cinq fleurs, c'est d'une aide vraiment, vraiment précieuse.
Et du coup, quand tu dis un petit cocktail avec ces cinq fleurs, ça s'utilise comment ?
Alors, on peut le faire. Donc, généralement, vous pouvez soit commander un flacon, un spray sur Internet, donc avec un mélange de ces cinq fleurs, soit acheter en pharmacie, parapharmacie, magasin bio, les flacons à l'unité, donc Mimulus, Rock Rose, etc., les cinq que je viens de nommer. Ça coûte plus cher parce que bah, voilà, ça doit être autour de 10 à 15 euros le flacon, donc ça fait tout de suite un petit budget. Mais typiquement, s'il y a des peurs fréquentes à la maison, bah, on les a à la maison et on peut les utiliser plus facilement. Moi, j'aime bien faire des mélanges. Je prends un petit flacon de 30 ml teinté pour que ça puisse filtrer le soleil. Et puis, je le remplis d'eau de source et je mets juste deux gouttes de fleurs sélectionnées. Et après, c'est un petit spray. Et donc, ce spray, on fait deux sprays plusieurs fois dans la journée. Donc, moi, j'aime bien dire 6 fois deux sprays dans la journée.
OK.
Et ça change complètement la donne. Ça aide vraiment, vraiment à apaiser les émotions et typiquement, là, pour ce petit cocktail, les peurs.
Trop bien.
Chouette. Ouais, et du coup, ça fait plein, plein de ressources là, avec tout ce que tu nous as apporté aujourd'hui. Ça permet de porter un autre regard, un regard peut-être plus doux sur cette émotion, sachant que là, tu nous équipes en fait de plein, plein, plein d'outils que chacun peut s'approprier en fonction de ses besoins, de ses envies, de son tempérament. Vraiment, un immense merci pour la richesse de tes partages. Moi, ça m'a donné envie d'essayer plein de trucs avec mes enfants, en tout cas. Donc, merci beaucoup.
Oui, puis je me dis que ça reste vraiment une émotion. Je trouve qu'en tant que maman, on est quand même vite perdu, vite dépassé aussi parfois. Et là, au final, de t'écouter, on se rend compte qu'il y a plein de petites choses qu'on peut mettre facilement en place à la maison, qui ne demandent pas forcément d'avoir un budget, qu'on peut faire voilà, de nous-mêmes. Et ça apaise aussi un peu le stress qu'on pourrait avoir autour des peurs de nos enfants et se dire, mais mince, comment est-ce que je vais gérer ça à la maison ? Comment est-ce que je peux l'aider ? Donc vraiment, merci.
C'était avec plaisir.
Et c'est la fin de cet épisode. Un immense merci à Stéphanie Couturier pour toutes les informations et les astuces qu'elle a pu nous partager pour mieux appréhender cette émotion qui est la peur. On espère que grâce à ce podcast, vous êtes maintenant outillés pour tester plein de choses avec vos enfants. En tout cas, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le faire savoir en le partageant sur Instagram, sur Facebook et puis en mettant 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute. En tout cas, nous, on vous dit à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. À bientôt !